But again, these issues which are burning in your mind, we'll have to wait until tomorrow, as we are running to a very tight time. Thank you anyway to those three speakers. And we move now, as I warned you, to I hope you've got your machinery ready, to the next session, which is being presented by Xavier Cernay from the conservation section of the audiovisual department of France's Bibliothèque Nationale. And he will speak on determining the composition of shellac discs, challenge or fantasy.
Bonjour à tous. And I am very sorry because I am alone and not with my beautiful young colleague. And I will speak in French. Tifiong Nguyen et moi-même, nous proposons d'évoquer devant vous, ici aujourd'hui, nos recherches portant sur la composition des disques 78 tours, en vous présentant d'abord le projet de manière générale, en faisant ensuite un point sur les recherches bibliographiques menées jusqu'à présent, en détaillant enfin les analyses physico-chimiques en cours. La Bibliothèque nationale de France bénéficie d'un programme de recherche triennal sur la conservation des documents audiovisuels et multimédia. Ces résultats doivent permettre de définir et d'orienter la politique de conservation du département de l'audiovisuel. Entre 2001 et 2006, ce programme a porté sur le vieillissement des disques optiques et a donné lieu à une communication d'Alain Carroux au Symposium Technique Mixte, le JTS, de Toronto en 2004. Depuis 2007, il porte sur la composition des disques noirs. Ces disques, réputés stables, sont en réalité inconnus et rien ne garantit leur conservation à long terme, alors même que l'on observe certaines dégradations dans la collection de la Bibliothèque nationale de France, une des plus riches et des plus grandes au monde, avec environ 650 000 supports. Ce programme de recherche a donc un fort caractère d'anticipation et de prévention. Il permettra d'envisager le moment où des problèmes de conservation se poseront sur les disques noirs et la meilleure manière d'y réagir. Notre objectif est triple. Il s'agit d'abord d'identifier, par des recherches documentaires et bibliographiques, les matériaux rentrant dans la composition des disques mécaniques, 78 tours et micro-sillons, pour adapter les analyses physico-chimiques, pyrolyse, chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, précisément en fonction des matériaux utilisés. Il s'agit ensuite d'en déduire les diverses causes de dégradation, notamment par vieillissement artificiel, d'étudier les moyens de lutter contre celle-ci, d'appréhender la durée de vie naturelle des supports et d'en déduire des priorités de transfert. Il s'agit enfin de chercher un procédé de nettoyage approprié à leur conservation et préalable à leur transfert. Nous savions dès l'origine que nous serions confrontés à au moins trois obstacles. D'abord, nous ne pouvons nous permettre d'appliquer aux documents patrimoniaux la pyrolyse et le vieillissement artificiel, qui sont des traitements destructeurs pour les supports. Ensuite, l'étendue même de la collection de disques noirs du département de l'audiovisuel, environ 300 000 78 tours et 365 000 micro-sillons, constitue en deux exemplaires, constitue un écueil tant documentaire que technique. Enfin, la disparité suivant les pays, les époques, les presseurs, etc., dans la composition notamment des 78 tours, est bien connue. La distinction entre procédés homogènes et hétérogènes étant la plus évidente et la plus fondamentale. Pour pallier ces trois difficultés, nous avons prévu dans un premier temps de restreindre l'étude à un pays, un presseur et un type de document pour lequel nous possédons de nombreux excédentaires, afin de pouvoir élaborer sur un échantillon plus limité une méthode de travail qui pourrait ensuite être appliquée à l'ensemble des documents concernés. À l'heure actuelle, le programme a porté sur les marques Pathé et Gramophone pour la période 1900-1928, 1900 étant la date du premier disque en gomme lac, 1928 correspondant à l'adoption d'un procédé de composition hétérogène chez Pathé. Nous avons prévu dans un deuxième temps d'étendre l'analyse à la période d'après 1928 pour Pathé et Gramophone, puis aux autres pays, époques, presseurs et types de documents, afin d'élaborer un véritable tableau de bord pour la conservation et le transfert éventuel de la partie en danger de la collection. Les recherches à la Bibliothèque nationale de France de monographies, périodiques, films et bases en ligne sur le sujet, ainsi qu'à l'Institut national de la propriété industrielle de brevets déposés en France entre 1902 et 1930 et aux États-Unis entre 1895 et 1922, ont permis de trouver 16 recettes où est indiquée très précisément la proportion des matériaux utilisés pour la fabrication des disques 78 tours sur toute leur histoire. Nous nous sommes également rapprochés d'archives de maisons de disques. À ce titre, la Fondation Jérôme Sédou Pathé, qui possède les archives de la branche phonographique de Pathé jusqu'en 1918 inclus, date de la séparation des activités phonographiques et cinématographiques de la firme, et la société EMI, qui possède les archives de la Gramophone et celles de la branche phonographique de Pathé à partir de 1919, ont accepté de nous ouvrir leurs archives et de nous donner une partie de leurs disques pour test. Les archives de Pathé contiennent, pour ce qui nous intéresse, les registres des matières premières utilisées pour la fabrication des disques, d'une part, ainsi que, d'autre part, les délibérations des conseils d'administration où ces questions étaient régulièrement évoquées. En parcourant les procès-verbaux conservés à la Fondation Jérôme Sédou Pathé des conseils d'administration de Pathé entre 1902 et 1921, quelques informations intéressantes apparaissent. Le 11 septembre 1906, le premier matériau utilisé pour la fabrication des disques fut le fibrociment, très rapidement abandonné en raison de la mauvaise qualité sonore qui s'en dégage. Le 19 janvier 1907, la gomme lac et le kaolin, qui apparaissent également dans le brevet d'invention demandé par Pathé le 16 septembre 1906, sont mentionnés en remplacement. Et le 8 décembre 1908, il est évoqué le remplacement de la gomme lac par un matériau plus léger et moins coûteux, supportant 90 degrés Celsius et offrant une résistance sensiblement plus forte, qu'on suppose être la gomme manille. Évidemment, la Première Guerre mondiale se traduit par plusieurs difficultés, notamment, pour ce qui nous concerne, ici, aujourd'hui, la raréfaction des matières premières, évoquée les 21 novembre et 22 décembre 1917, ainsi que le 21 mars 1918. D'un autre côté, les registres d'inventaire de matières premières consultés à la Fondation Jérôme Sédou Pathé couvrent les années 1888-1918, mais seuls ceux d'après 1904 sont intéressants pour notre étude. 1905 correspond en effet à la fois au début de la fabrication de disques à l'usine de Chatou, à la première mention de présence de gomme lac au laboratoire et à l'acquisition par Pathé de gomme lac en grande quantité. De 1905 à 1908, les inventaires sont assez rudimentaires. Les matériaux sont séparés en deux catégories, simplement, suivant qu'ils se trouvent dans l'usine ou au laboratoire. Les rubriques qui apparaissent au fil des ans, telles « Matières premières pour galvanoplastie » en 1907 et « Pharmacie » en 1908, permettent d'éclairer à quoi le matériau cité était utilisé. En 1909 et 1910, la catégorie « Laboratoire » se subdivise en deux, entre les matières premières pour disques et celles pour cylindres. À partir de 1912, sauf 1918, sont données également les matières premières figurant dans une autre usine de pâté localisée à Moscou. Les incertitudes de lecture sont plutôt rares, mais il est parfois difficile de connaître le sens d'abréviation, les termes utilisés pour désigner un même matériau pouvant différer d'une année sur l'autre. Il faut donc être très prudent sur l'interprétation de ces inventaires, d'autant que les matériaux qui y sont listés ne sont pas forcément ceux qui étaient réellement utilisés pour la fabrication des disques, mais plus simplement ceux qui se trouvaient là lors de l'inventaire. Les hypothèses formulées ont donc dû être croisées avec d'autres sources. Les quantités de matériaux susceptibles d'entrer dans la composition des disques ont été relevées, ainsi que, quand c'était possible, le lieu où ils ont été inventoriés et l'utilisation qui en était faite. Nous avons ainsi obtenu une liste de 558 matériaux différents, dont 20 ont particulièrement retenu notre attention. Finalement, en confrontant les éléments trouvés dans la bibliographie et les archives, il a été possible de lister les 25 matériaux utilisés de manière avérée par pâté dans la fabrication des disques. Cependant, il nous a paru nécessaire de connaître les matériaux ayant en général été utilisés par d'autres firmes pour la fabrication de disques, puisque pâté, ayant eu des liens avec d'autres sociétés et ayant débauché du personnel chez des concurrents, a pu bénéficier d'un transfert de savoir-faire ou de recettes relatives à la fabrication des disques. Nous avons également été reçus aux archives d'EMI à Hayes, dans la banlieue de Londres, le 30 mai 2007, par M. Paul Lillet, responsable des fonds anciens, qui a eu l'amabilité de nous faire une visite de ses collections et de mettre à notre disposition un certain nombre de documents d'archives concernant notre programme de recherche. Nous avons découvert, lors de la consultation des documents qui nous ont été communiqués, de précieux renseignements au sujet des procédés de fabrication de disques 78 tours. Néanmoins, les informations concernaient plus particulièrement les firmes Victor et Gramophone, et très peu la firme Pathé, notre sujet d'étude principal pour le programme de recherche, dans un premier temps tout au moins. Cependant, M. Lillet a convenu n'avoir pas eu le temps de trouver dans le fond les documents que nous avions spécifiquement demandés, dont il connaissait toutefois l'existence. Il donna son accord pour accueillir la vacataire recrutée dans le cadre du programme de recherche, qui pourrait ainsi exploiter les documents de manière plus approfondie. Il accepta également de nous céder des disques 78 tours excédentaires pour nos analyses physico-chimiques. Cependant, peu après notre départ, Paul Lillet quittait EMI. Il ne fut remplacé que quelques mois plus tard par une personne qui ne resta qu'une année. Depuis, nos relations avec leurs supérieurs sont restées épisodiques. Mener à bien ces deux tâches ne sera donc pas chose aisée. Finalement, nous avons listé l'ensemble des matériaux rencontrés lors des recherches bibliographiques, dans les monographies, les périodiques, les brevets d'invention déposés avant 1930 et les inventaires jusqu'en 1918, en sachant que les matériaux extraits des inventaires sont ceux rencontrés par ailleurs dans un brevet d'invention lié à la fabrication du disque et déposés par toute société phonographique. Ces matériaux concernent la fabrication du disque noir pressé, y compris les nombreux matériaux à la base de résines diverses pouvant être employés dans la conception du disque. Les brevets utilisés concernent aussi bien la fabrication de disques de structure homogène que composite. Cette énumération donne ainsi un éventail très large des matériaux et des techniques qui ont pu être utilisés pour la fabrication des disques jusqu'en 1930, les techniques utilisées par Pathé n'en étant qu'un cas particulier, et nous a permis d'orienter nos protocoles, notamment d'analyse chromatographique. La couche de matière plastique ou vernis sur laquelle est imprimé le sillon phonographique est constituée de liants, de solvants, de plastifiants, de charges ou matériaux de remplissage, de pigments ou colorants, de durcissants et d'additifs. Le liant, constituant principal d'un vernis, est formé de résine, d'huile ou d'autres polymères, ou d'un mélange de certains de ses constituants. Cette substance, naturelle ou synthétique, a pour rôle d'assurer la cohésion entre tous les matériaux constitutifs du vernis, ainsi que l'adhérence de cette couche de vernis sur le support. Okay. Le solvant, produit chimique organique, liquide, incorporé au moment de la fabrication du vernis, a pour rôle de dissoudre les liants afin de faciliter la fabrication et l'application de la couche de vernis. Étant volatile, il peut ne plus être présent lors des analyses chimiques. Le plastifiant a pour rôle de conférer au vernis souplesse et élasticité. Okay. Les charges sont utilisées pour augmenter la densité du vernis et améliorer certaines propriétés physiques ou mécaniques, comme sa résistance lors du passage de l'aiguille phonographique. Les pigments ou colorants, qui se présentent sous forme de poudre et déterminent la couleur de la couche de vernis, peuvent en améliorer certaines propriétés physiques et, en absorbant ou en réfléchissant la lumière, protéger les liants d'une dégradation photolytique. Le durcissant, en agissant sur le degré de réticulation du liant, lui confère les propriétés chimiques ou mécaniques nécessaires. Enfin, les additifs permettent d'apporter des propriétés supplémentaires au vernis, comme l'ajout de produits empêchant la fermentation, catalyseurs, assouplissants, lubrifiants, etc. L'outil analytique principal utilisé pour les analyses physico-chimiques est la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Cette technique permet de séparer un échantillon en ses divers composés chimiques. Les résultats sont obtenus sous forme de chromatogramme. Chaque pic, qui correspond à un composé chimique, sort à un temps qui lui est propre et la hauteur du pic est proportionnelle à sa quantité. Les espèces naturelles, comme la colophane, la gomme-laque ou les huiles, étant des mélanges de plusieurs composés chimiques, plusieurs pics peuvent leur correspondre. Ici, par exemple, les pics bleus correspondent à la colophane et les pics roses à des acides gras. La gomme-laque, elle, est présente en faible quantité. Nos premiers essais ont été effectués sur 5 78 tours qui, ne relevant pas du dépôt légal, ont pu subir des analyses destructrices. Les résultats sont les suivants. Les disques présentent des compositions différentes en proportion, mais les espèces de base sont presque les mêmes. On retrouve toujours de la gomme-laque et de la colophane. Les huiles, en revanche, ne sont pas présentes sur tous les disques. Le brevet déposé par la maison Pathé en 1906 montre la composition suivante. Une grande majorité de charges minérales blanches et noires, de la gomme-laque, un peu de colophane et de fibres de coton. Les registres de commandes de produits consultés à la maison Pathé montrent également l'utilisation de divers types de gommes végétales, résine, cire et huile. À ce stade, il nous a été possible d'étudier plus précisément les disques gramophones et xandophones enfouis dans les urnes de l'opéra en 1907 et 1912. Les prélèvements de matière sur ces disques, devant, du fait de leur histoire particulière, être le plus discret possible, nous avons mis en place des protocoles permettant une analyse à partir d'échantillons de masse très faibles. Un prélèvement de matière de moins de 0,5 mg, obtenu en grattant le bord du disque avec une lame de scalpel, suffit pour l'analyse de disques 78 tours homogènes. Dans un premier temps, nous avons étudié la composition inorganique des disques des urnes par observation au microscope électronique à balayage, couplée à une analyse X. Sur tous les disques analysés, cette partie est composée majoritairement de sulfate de barium et de noir d'os. À cela s'ajoute de la silice et parfois de l'ardoise et de l'argile, pouvant être issus du noir de schiste. Dans l'ensemble, ces résultats concordent assez bien avec les matières premières trouvées lors des recherches bibliographiques, à l'exception du noir d'os, qui ne figure dans aucune recette. Dans un deuxième temps, la composition organique a été étudiée par chromatographie gazeuse. Comme il est présenté sur ce graphique, les analyses menées ont mis en évidence la présence de deux composés naturels, la gomme laque, pic pointé en rouge, et la colophane, pic pointé en bleu. En plus de ces deux composés, quelques pics de sucre ont été observés, sans doute liés à la présence de cellulose. Sont visibles également des traces d'autres types de produits qui pourraient provenir d'une gomme, telle que la gomme d'amarre. L'étude des disques des urnes nous a permis d'affiner les protocoles d'analyse. Nous avons ensuite élargi le domaine de recherche à des disques pâtés et berliner provenant des collections de la Bibliothèque nationale de France. Sur ce graphique sont présentées les quantités de gomme laque dans trois ensembles de disques. Les disques pâtés, sur fond orange, les disques des urnes, sur fond violet, et les disques berliner, sur fond vert. Les disques pâtés et berliner sont assez homogènes, contrairement aux disques des urnes. Les analyses des disques des urnes ayant été faites à partir de masses d'échantillons particulièrement faibles, ces différences peuvent en partie être dues à un biais d'analyse. Cependant, ce graphique permet d'observer que, comparé aux disques berliner et aux disques des urnes, la quantité de gomme laque est plus faible pour les disques pâtés. Sur ce graphique sont présentées les quantités de colophane dans les mêmes ensembles de disques. Comme nous le voyons, la proportion de colophane dans la matière est très variable en fonction des disques, et les disques des urnes comportent plus de colophane que les disques pâtés et les disques berliner. Regardons à présent la composition totale de certains disques. Nous constatons que la partie inorganique, en violet, rouge, donc représente 30 à 50% de la composition totale. La partie organique, en jaune, comprenant la gomme laque et la colophane, représente quant à elle entre 10 et 30% en fonction des échantillons. Le reste de la matière est probablement, en vert, est probablement de la poudre de coton. En comparant avec le brevet pâté de 1906, nous retrouvons les mêmes composés mais en quantités différentes. En particulier, le pourcentage de coton déterminé par les analyses est très différent de celui du brevet. Nous trouvons des pourcentages de coton compris entre 20 et 55%, tandis que le brevet pâté n'en mentionne que 7%. Paradoxalement, les disques pâtés étudiés sont précisément ceux qui contiennent les taux les plus élevés de coton. Une des principales dégradations observées sur une partie des disques analysés est le soulèvement de matière formant des trous dans lesquels nous pouvons apercevoir les fibres de coton. Ce type de dégradation peut amener à l'impossibilité de lire le disque. Nous pouvons alors nous demander si la quantité de coton est un facteur pouvant jouer sur la fragilité des disques. Les études faites sur les disques 78 tours ces trois dernières années ont permis de déterminer des recettes possibles par des études bibliographiques et de mettre en place des protocoles d'analyse pour déterminer la composition chimique réelle des disques. La suite de notre travail consistera à mener une étude statistique des fonds de la Bibliothèque nationale de France pour mettre en évidence les principaux profils de dégradation et en déterminer la fréquence. Des analyses chimiques seront ensuite menées sur les disques dégradés de manière à corréler les types de dégradation à leur composition chimique. Je vous remercie pour votre attention.